d'autres sujets.
Par exemple,
c'est quoi votre retraite?
Vous êtes sûr d'avoir tout mis dans vos impôts? Et...
On s'en met jamais
sûr. Ouais, ouais, mais est-ce que vous avez déjà eu des antécédents juridiques?
Je suis sûr.
Et pas d'histoire d'amour cachée? Vous voyez, bon, j'ai fait un petit peu exprès pour provoquer, mais alors, dans ce sujet, je ne vais pas présenter un livre. En fait, c'est le témoignage de différentes personnes qui s'expriment sur le sujet. Je tiens ça d'une revue qui s'appelle Inflexion, et qui est une revue
qui est très bien, qui je trouve très bien.
Très, très, très générale. Et qui me donne d'ailleurs l'idée, mais je n'ai pas encore dit, d'une prochaine intervention.
Tout de suite, allez-y.
Et donc, ça n'a pas la volonté d'être exhaustif, parce que si on voulait développer le secret dans toutes ses dimensions, d'abord, ça durerait très longtemps, et ensuite, on n'en finirait pas, puisqu'en fait, tout peut être matière à secret. Voilà, on va revenir sur la définition. C'est le secret, c'est quelque chose qui n'est connu que d'un nombre limité de personnes, et qui est ou doit être caché aux autres, au public. Donc il y a cette notion de confidentialité. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une exploration du secret en toute transparence. Et pour commencer, on va reprendre ce papier qui avait été envoyé il y a quelques temps sur l'introduction qui est rédigée par Hervé Pierre, qui est en fait l'éditorialiste de la revue Inflexion. Donc... avant d'aborder donc des domaines spécifiques en deuxième partie, le secret prend une dimension singulière et forte, et on va examiner les 6 paradoxes que j'ai évoqués dans mon papier. Alors le premier paradoxe, le secret est toujours provisoire, en danger d'être percé. C'est le conflit du secret, vous savez, ce petit tiroir là, dans le secrétaire, que, en fait, on finit toujours par trouver parce qu'il est à gauche, à droite, en dessous, derrière une plaque, mais on arrive toujours à le trouver. Et les coffres, finalement, sont faits pour être percés et un lieu secret est toujours accessible. De nos jours, la dématérialisation des données aurait pu faire penser que le secret pouvait échapper au risque que lui faisait peser son contenant matériel. En fait, le constat est tout autre. Autant la question cruciale du lieu de stockage des données sensibles, notamment tout ce qui est les serveurs à l'étranger, que le développement des capacités offensives en cyberguerre tend à modérer l'enthousiasme pour le tout dématérialiser. On en reparlera un peu plus tard, notamment avec l'usage des données de santé. Deuxième paradoxe, le secret n'a qu'une valeur relative au contexte. C'est l'exemple du secret de famille. Hein, et au fil des générations. C'est un secret de famille à une époque, on le maintient pendant des générations, puis au bout d'un moment, il y a 70-80 ans, un enfant naturel, c'est un secret de famille. Aujourd'hui, compte tenu de l'évolution de notre société, ça paraît dérisoire, ça ne se fait plus un secret de famille. Et le jour où on le révèle, on dit, et on a fait tout un pataquès pour ça pendant des générations. Donc voilà, c'est relatif à un contexte, à une époque. Dans le papier, j'ai mentionné l'exemple des communications, des écoutes de communication à Londres pour le sous-lieutenant de la vie. En fait, en deux mots, c'est pendant la bataille de Verdun. Le sous-lieutenant de la vie est un transmetteur, et à l'époque, les transmissions se font de façon filaire. Et il est aux avant-postes, donc il y a des fils qui passent dans les tranchées de devant. Mais les Allemands sont aussi très, très très proches. En fait, les tranchées sont très proches. Et il se crée, c'est une sorte d'interférence qui fait qu'un beau jour, il comprend qu'il est en train de capter des conversations allemandes. Et donc, c'est le début, en fait, de la guerre électronique. Et il perce les secrets des intentions allemandes. Et à partir de ce moment-là, il va faire remonter ça au commandement qui va permettre de déjouer toute initiative d'offensive ou d'activité particulière. Mais là aussi, c'est une question de contexte, c'est-à-dire que ce secret, il faut l'exploiter au bon moment dans le contexte du moment, parce que si on attend la fin de la guerre, c'est un secret et puis il restera inutile. Troisième paradoxe, plus un secret est protégé, plus l'envie de s'en emparer est importante. Dans la psychologie du secret, ce qui est confidentiel suscite automatiquement la convoitise. Mais à noter aussi combien le secret peut être lourd à porter. On y reviendra plus tard. À titre individuel, la gestion d'un secret demande un effort permanent, ne serait-ce que pour contrôler ce qui peut être ou ne pas être dit. Être vigilant en permanence. Et à titre collectif, la problématique de la classification de l'information, surclassification versus sous-classification. C'est-à-dire qu'on peut avoir dans certains milieux la volonté de vraiment protéger le secret en surclassifiant. Et finalement, en surclassifiant, il y a tellement peu de gens qui sont au courant qu'il y a peu de gens qui peuvent en avoir connaissance et qui peuvent traiter la matière du secret. Et inversement, si on sous-classifie, ça devient un grand risque de compromission et de fuite. Donc voilà, faut toujours à bien peser. Quatrième paradoxe, le secret protège la liberté et pourtant c'est la transparence qui apparaît comme le symbole de la démocratie. L'individu qui exige toujours plus de transparence est aussi celui qui estime désormais que la liberté n'a pas de prix et qu'à ce titre, ce qu'il concerne ne concerne que lui et personne d'autre. Cinquième paradoxe, le secret est à la fois facteur d'efficacité et reste opposé à l'action politique qui repose sur la communication. Bon exemple, c'est la dissuasion. Dissuader l'autre, c'est avant tout lui faire croire qu'il a tout à perdre s'il ne renonce pas. Le secret n'a de valeur que si son existence est connue. Il n'y a pas de dissuasion si on sait pas. Si quelqu'un qui a l'arme nucléaire ne fait pas savoir qu'il l'a,
ça ne sert à rien.
Et bien, souvent, il n'y a plus de dissuasion. Et c'est d'ailleurs dans le rapport entre la confidentialité et la communication que la diplomatie tire sa puissance. On y reviendra plus tard également. Sixième paradoxe, moins il y a de secrets, plus tout est public. Il n'a pas dit ça. Moins les informations importantes sont déchiffrables, plus elles sont secrètes. Sans doute qu'aujourd'hui, une des façons de protéger une information très sensible consiste à la perdre, à la noyer, à la dissimuler dans la masse. Comme j'ai dit, James Bond ne s'y retrouve pas. Protéger un secret au XXIe siècle revient peut-être finalement à pas trop chercher à le protéger de manière à ce que ça soit diffus et que ça ne suscite pas justement...
L'aiguille dans la botte de foin.
Voilà, donc ça c'était en guise d'introduction. Alors, maintenant on va voir le secret sous différentes approches. On va commencer par la première qui est d'ordre psychologique. Un point de vue qui nous est donné par Cyril Rival, psychologue spécialisé en psychologie comportementale et cognitive. Alors, qu'est-ce qu'un homme ? Un misérable petit tas de secrets, écrit André Malraux dans ses Anti-mémoires. Nous protégeons tous en effet au minimum un secret. C'est un peu l'objet de mon introduction provocatrice. Or, cette activité psychique ne demande pas à tous les mêmes efforts. La dissimulation est plus aisée pour certains que pour d'autres. Nous ne sommes pas égaux dans notre capacité à cloisonner et à tenir un rôle. En fait, garder un secret, c'est une certaine forme de mensonge, avec soi-même. De fait, garder un secret demande un gros effort mental. Il faut être capable de prêter attention à ce que nos interlocuteurs savent déjà et ce qu'ils ignorent. Ne pas les juger. Garder en mémoire ce qu'on a dit et pas dire le contraire plus tard. Ne pas dévoiler son secret est déjà un vrai défi, mais garder le secret sur le fait que l'on en détient un est plus compliqué encore. Cela demande au détenteur du secret de renoncer à la satisfaction non pas de le partager, mais de faire savoir qu'il le possède, qu'il n'est pas quelqu'un d'anodin. Avoir un secret, tout de suite, c'est « moi j'ai un secret, pas vous ». Or, cette délectation interdite est paradoxalement indissociable de la possession du secret, et en même la conséquence. Donc, attardons-nous maintenant sur la notion de secret personnel. Selon l'étude « L'expérience du secret », qui est une étude qui a été faite par un Américain, qui s'appelle Michael Slepian, et qui se penche sur le processus mental consistant à dissimuler des informations, un individu possède environ 5 secrets qu'il ne divulguera pas. Considérés par leur détenteur comme étant particulièrement inavouables, ils sont en fait à l'origine de son mal-être. À ce stade, il convient de faire une distinction entre avoir un secret et garder un secret. Une forme d'anxiété est générée par toutes les fois où le secret entre dans notre tête et interfère avec nos idées, nos pensées quotidiennes. C'est le stress de se cacher. Mais c'est surtout lorsque le secret en question met en défaut nos qualités d'authenticité, d'honnêteté et de sincérité qui peut avoir de réelles conséquences psychiques. Parce que ce secret généralement négatif, et il est généralement négatif, et que penser à des choses négatives, ben ça nous perturbe. Garder un secret n'est pas dangereux en soi, mais selon sa nature, des émotions comme la honte ou la culpabilité peuvent lui être associées. C'est le cas d'un secret gênant qu'on confie à un ami. Du coup, cet ami qui a un secret mais qui ne le concerne pas directement est amené à le partager. Et donc, comme ça ne le concerne pas directement, il peut encore plus avoir un sentiment de culpabilité. Pour conclure sur cette approche psychologique, le secret impose un effort de cloisonnement qui prend de la place dans notre esprit. Quand un individu s'entretient avec un autre, sachant qu'il doit impérativement garder pour lui certaines choses, ses pensées sont contaminées par ces informations qu'il convient de maintenir à l'écart. Plus on s'efforce de ne pas penser à quelque chose, et plus ça nous obsède. Alors, de la psychologie, on passait au médical, le lien est direct, avec ce que nous dit Didier Sicard, qui est un ancien chef de service de médecine interne à Cochin et président du comité consultatif national d'éthique. On est vraiment dans notre sujet. Le fondement du secret médical est éthique plus que déontologique. Il est celui d'une protection liée à la vulnérabilité que constitue le malade face à l'ordre policier ou médical, voire moral. Il relève du respect de la personne soignée. De plus en plus fragilisé aujourd'hui, le secret médical est une valeur à restaurer. En fait, peu de concepts sont aussi idéalisés que le secret médical. Depuis Hippocrate, il est considéré comme un élément fondamental de la relation entre le malade et le patient, et le médecin. C'est le 21e siècle qui fera du secret médical une garantie de confiance entre le malade et son médecin, en particulier par les maladies vénériennes, car la syphilis est alors en pleine exploitation. En fait, le secret médical prend son essor à partir du moment où le bon bourgeois va se canaliser dans les maisons closes. C'est pas glorieux, mais c'est une réalité.
C'était les secrets de l'époque.
Et voilà. Et plus proche de chez nous, face à l'épidémie de sida, le secret médical a été parfois rompu, ce qui était justifié par un risque hypothétique de contamination. Car encore plus récemment, j'ai quand même fait plaisir à certains qui sont d'ailleurs pas forcément présents, la pandémie du Covid a ravivé les inquiétudes liées au risque de contamination. Le sujet dépisté a perdu son secret médical, puisque en tant que transmetteur potentiel, on l'a obligé à dévoiler l'identité des personnes avec lesquelles il a été en contact, les fameux cas contacts, et à prévenir son employeur. Et s'il refuse, il est jugé comme un mauvais citoyen.
Voire viré.
Alors il y a des dérogations obligatoires ou facultatives au secret médical. On a par exemple la déclaration des maladies contagieuses. Pourquoi ? Des certificats médicaux de maladies professionnelles, des hospitalisations d'office pour raisons psychiatriques, la lutte contre le dopage sportif, bon, au moins là, enfin, c'est un tricheur, ça peut être atteint, la requête des médecins lors d'une garde à vue, c'est aussi une raison, et puis, on y reviendra, l'accès total des dossiers médicaux à l'inspection générale de la santé. Pour le facultatif, on a le signalement des sévices infligés aux mineurs de moins de 15 ans, le même signalement des femmes victimes de violences conjugales, même si il y a des textes récents qui sont intervenus. Sans oublier les assurances, qui essaie à chaque occasion de vérifier l'adéquation de la maladie ou de la mort de l'assuré avec ses déclarations antérieures. Il faut compter aussi avec les ruptures banales du secret médical, quotidiennes parfois, au nom de la transparence ou du principe de précaution largement dévoyé. Cela vient parfois de l'insouciance hospitalière. On a par exemple le nom des patients qui est laissé à la vue des visiteurs sur les dossiers qui transitent en salle d'attente, ça peut arriver. L'appel d'un nom lors d'une consultation, c'est une forme déjà de violation du secret médical, comme par exemple quand vous allez dans un cabinet qui est spécialisé pour une pathologie, vous avez le nom, vous savez pourquoi il vient. La société est donc enfermée dans un paradoxe, l'exigence de la transparence d'un côté et le maintien simultané de la confidentialité. Paradoxe particulièrement aigu dans le cas de la contamination par VIH. La personne qui tait son infection à son partenaire porte une très lourde responsabilité morale, voire pénale. Le ou la partenaire contaminée n'avait qu'à se protéger, diront certains. Un peu facile et désinvolte. Pareil pour les maladies génétiques. Faut-il prévenir un membre de sa famille quand on a une maladie génétique?
Avant le mariage.
Oui.
Oui, parce que les enfants sont concernés.
La mort même ne délivre pas de l'obligation du secret médical. Un malade peut demander que le nom de sa maladie ne soit pas dévoilé après son décès. Seul le juge est habilité à autoriser le médecin à lever le secret. C'est le cas par exemple lorsqu'il y a un reproche sur la nature d'un traitement ou sur des soins erronés. Secret médical et données de santé, on y vient. Nos données de santé ont une valeur informative considérable sur notre mode de vie. Et celles-ci sont collectées et hébergées par l'assurance maladie qui les considère comme sa propriété. Pour des raisons de confidentialité, il a du mal à les mettre à disposition des chercheurs qui en ont besoin pour élaborer des stratégies thérapeutiques. Ces réticences sont non fondées car les données pourraient très bien être masquées et rendues anonymes. Ce cadenassage est très pénalisant car il place la France dans le peloton de queue des pays développés en termes de recherche alors qu'elle devrait être la première en raison de l'universalité de l'accès à l'assurance maladie qui est unique au monde. Le paradoxe de cette réticence à l'égard des banques de données publiques est que, dans le même temps, nous donnons sans précaution nos données personnelles intimes, y compris médicales, aux réseaux sociaux qui les emmagasinent dans des clouds plus orientés vers des utilisations commerciales que scientifiques. Le numérique fait peur là où il serait d'un usage utile et il n'effraie pas là où il est dangereux. On a un exemple avec le Health Data Club. Le Data Club, c'est cette plateforme qui a été créée en 2019 et qui est destinée à partager des données de santé, justement, à des fins de recherche scientifique. Et confier les données du Health Data Club à Microsoft, qui n'a pas signé le protocole de confidentialité des données européennes, ça témoigne d'une très grande imprudence. Voilà, on passe maintenant au côté spirituel avec le secret d'Église. Donc, je cite Pascal Maigre, qui est un prêtre normalien, docteur en théologie et qui est curé de la paroisse Saint-Ambroise. Alors, souvent associé au secret, l'Église est pourtant, depuis l'origine, au service de la révélation d'un mystère destiné à être dévoilé, et annonce
la bonne nouvelle, l'Évangile,
destinée à tous. Donc, le secret dévoilé, c'est appelé le secret dévoilé, l'Église et la révélation. Les secrets de l'Église sont un sujet d'intérêt, de curiosité qui revient régulièrement à la une des kiosques et qui nourrit toujours l'imaginaire social. Et le fait est que le pape ait renommé les archives secrètes du Vatican en archives apostoliques en 2019 ne change rien du tout au phénomène. Pourtant, il avait pris cette décision pour tenir compte justement des évolutions de langage, parce qu'en fait, le terme secret vient du latin secretum, qui signifiait pas secret, mais privé. Mais aujourd'hui, le mot secret a pris un autre sens, et la plus plutôt le sens de caché, hautement préjudiciable. Or, l'Église porte en son essence même, dès l'origine, la charge d'annoncer, de dévoiler et de révéler. Rien n'est voilé qui ne sera révélé, rien de caché qui ne sera connu, ce que vous aurez dit à l'oreille dans les pièces les plus retirées sera proclamé sur les toits. C'est ce que dit Jésus, en fait, à ses disciples en les invitant à parler ouvertement dans l'évangile de Saint-Luc. Saint Paul dit aussi dans son épître aux Romains, Jésus-Christ est la révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence. Donc voilà, ce premier, et sans prendre parti, mais ce premier procès sur le secret, l'essence de l'Église est injustifié. Le secret habité, lieu de rencontre et de la vérité. D'où vient donc que l'Église soit aujourd'hui associée à l'idée d'un puissant mystère ? À cet égard, la notion de mystère, mysterion en grec, s'est traduite en latin par sacramentum, le sacrement. Et les sacrements, ce n'est pas des secrets, c'est justement des portes ouvertes d'accès à Dieu et sont donc par définition non cachées. Et puis ce qui est caché n'est pas nécessairement mauvais. Ça permet parfois de préserver autrui par délicatesse, voire par amour. Cela est vrai dans nos histoires communes comme dans l'histoire sainte. En fait, qui connaît le combat spirituel d'Abraham au moment où Dieu lui dit de sacrifier son fils ? Il a dû peut-être un peu cogiter avant de... Qui a assisté à la rencontre décisive de Moïse et du buisson ardent sur le mont Sinaï ? On n'en parle pas. Qui était là lors de l'annonce à Marie dans le secret de sa maison ? Personne n'a assisté non plus à la résurrection du Christ au cœur de la nuit. Vous avez remarqué que dans la foi chrétienne, comme dans la foi juive d'ailleurs, le Dieu qui se révèle dans la vérité le fait toujours de matière intime et personnelle, en se manifestant à chaque intelligence, à chaque personne, en parfaite liberté, et jamais globalement à des foules, ou des consortiums, ou à grand renfort de publicité. Saint Matthieu dit dans son évangile, « Quand vous priez, ne soyez pas... » hautement d'actualité. « Ne soyez pas comme les hypocrites, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Vu sous cet angle, on voit bien que pour l'Église et pour ses pasteurs, le secret n'est pas le lieu d'une privation ou d'une dissimulation, mais avant tout le lieu d'une rencontre avec Dieu dans une démarche intime. C'est l'inviolable secret des cœurs. Et bien sûr, on ne peut pas terminer le secret spirituel sans parler de la confession de Jésus-Christ. Pour servir la vérité, tout en préservant l'inviolable, la confiance est le maître mot. Ça nous amène à la confession et au secret de la confession. La confession, bien sûr, elle n'est possible que dans la confiance, et le secret confié dans la confidence n'est pas un contrat occasionnel, mais un dépôt précieux qui se fonde sur une dimension d'absolu. En fait, et chacun peut le comprendre, sans cette nécessité de confiance, personne ne pourrait se confier à l'homme, qu'il soit prêtre, qu'il soit confesseur, mais aussi à son médecin ou à son avocat. C'est la même chose. Et dans ce cas-là, la parole serait plus possible. C'est d'ailleurs pourquoi le code pénal lui-même punit le manquement au secret professionnel. Et ça n'est pas si simple. On pourrait opposer que le secret de la confession en cas de révélation d'actes odieux pose problème. Il arrive en effet que des injustices soient passées sous silence alors qu'elles devraient être révélées. L'Église a connu, c'est tous récemment, plusieurs scandales qui ont fait subir à des innocents de graves dommages en raison d'un secret injustement conservé. À cet égard, le législateur, au vu du bien commun et pour préférer l'innocent au coupable, garantit la levée de certains secrets professionnels. Taire la vérité à qui n'est pas en droit de la connaître et lever le secret pour préserver l'innocent, d'un côté la prudence et de l'autre le discernement, les deux doivent être de règle. Quoi qu'il en soit, il faut bien comprendre que le prêtre n'est pas dépositaire de la confession, car celle-ci est un bien qui ne lui appartient pas et dans lequel l'inviolable relation de chaque homme à Dieu est engagée. C'est pourquoi rien ne pourra contraindre un prêtre à trahir une confession. Les confidences que le prêtre entend ne lui appartiennent pas, puisque par sa propre médiation, l'aveu est en réalité adressé à Dieu. D'où le caractère absolu du secret à l'égard de Dieu. Secret et justice. Là, je fais intervenir Maître Soulez La Rivière, qui est bien connu, un avocat pénaliste qui est décédé en 2022. C'était l'homme qui était intervenu pour le procès AZF, qui était venu pour le procès Furiani, qui était intervenu pour le crash du Mont-Saint-Odile. Sa réputation, il a fait. Lui, il dit en substance que la confusion actuelle entre la transparence supposée vertueuse et le secret a des conséquences toxiques dans le fonctionnement de la justice où le secret professionnel est de moins en moins accepté. En matière de justice, là aussi, il existe une ambiguïté. Le secret et la publicité sont aujourd'hui indissociables. La justice, par essence, elle se rend portes ouvertes. On ne condamne pas en secret et l'audience est ouverte pour permettre aux citoyens de voir ce qui se passe. C'est même une garantie contre l'arbitraire. En revanche, la préparation d'une affaire pénale est forcément secrète, ou en tout cas devrait l'être.
Oui.
Vous avez compris que là, ça coince un peu, même oui. Ça bloque très fort. Surtout de nos jours. Le secret reste indispensable pour éviter d'asperger de boue les gens sur lesquels ne pèsent que des soupçons, et pas forcément des preuves. Mais en mémoire, cette affaire de Dominique Baudis, qui avait été salie, injustement accusée de proxénétisme, de viol, de meurtre, le bilan, rien du tout, c'était simplement pour démolir politiquement. Le secret est également indispensable techniquement pour découvrir les infractions et les preuves. Une enquête ne peut pas se faire sur les projecteurs, sinon on prend le risque de dissimulation des preuves entre temps. Ça donne des arguments pour faire disparaître avant d'arriver à la preuve. Le secret de l'instruction. Alors, on s'assoit de plus en plus dessus. On a déjà tous noté qu'il arrive que des magistrats le violent. Notamment, certains juges d'instruction sont tentés de violer le secret afin que, sous la pression de l'opinion publique, le parquet finisse par élargir les poursuites. Quant aux journalistes, alors eux, ils sont certes pas tenus au secret, mais ils ne font rien de moins que du recel de violation du secret d'instruction. Il y a donc incompatibilité totale entre le secret médiatique et le temps médiatique et le temps judiciaire. Il n'y a pas que là, d'ailleurs, qui est sa compatibilité. Le secret, maintenant professionnel, spécifique à l'avocat. Le secret professionnel est un élément capital de la défense. Il est intrinsèque à la fonction d'avocat. Le secret professionnel n'est pas fait pour protéger l'avocat ou son client, il est fait pour protéger la justice. L'exercice même de la défense légitime la décision de condamnation ou la décision d'acquittement. C'est bien pourquoi il faut que soit maintenu secret l'échange de paroles entre l'avocat et son client. Aucune défense n'est possible si l'avocat ne peut se concerter librement avec l'accusé pour établir une stratégie de défense. Il faut bien comprendre que certains magistrats aujourd'hui ressentent encore le secret professionnel de l'avocat comme une atteinte à leur toute puissance et à leur souveraineté. Là aussi, sans prendre parti, mais quand même, l'affaire des écoutes téléphoniques de Nicolas Sarkozy entre lui et son avocat, c'est quand même énorme, quoi. Énorme.
Ah oui, mais parce qu'il s'appelle Nicolas Sarkozy.
En fait, le droit français de la preuve est relativement peu structuré, si bien que la souveraineté des juges pour rechercher la preuve connaît peu de limites. Il est vrai que le secret professionnel de l'avocat heurte aussi l'idéal de transparence auquel la société tout entière adhère de plus en plus fortement. Voyons maintenant le secret en diplomatie. J'en ai un petit peu parlé en introduction. Développé par Emmanuel Mignot, diplomate qui était en poste au Mexique, en Allemagne et à l'OTAN. Le recours au secret Et ça a un avantage pour un diplomate dans plusieurs dimensions de sa mission. Alors, d'où vient-on en matière de secret diplomatique ? La diplomatie a réellement pris son essor en Europe au XVIe siècle. L'histoire de l'Europe était alors pleine de tractations secrètes qui débouchaient sur la signature de traités. Les négociations portaient généralement sur 4 sujets principaux, qui étaient la fin des conflits et les cessions de territoire, les alliances avec ou sans mariage, les accords de protection et les questions religieuses. Dès cette époque, le recours à une correspondance chiffrée entre le diplomate et ses autorités était fréquent. Et c'est vrai que la plupart du temps, les objectifs étaient fixés oralement entre le souverain et son ambassadeur avant qu'il rejoigne son poste. Si la confidentialité de la correspondance diplomatique permettant l'échange d'instructions et de comptes rendus est une nécessité, une négociation elle-même peut aussi rester secrète. L'accord auquel elle aboutit in fine restant ou non confidentiel. On a en tête les accords Molotov-Ribbentrop, ou ce qu'on a appelé aussi le pacte Hitler-Staline de non-agression, avec son protocole secret de partage de l'Europe. Alors, le secret en diplomatie est-il possible ? Tout d'abord, il y a la Convention de Vienne, c'est ce qui régit les relations diplomatiques et qui est à peu près reconnue partout dans le monde. La Convention de Vienne donc, reconnaît implicitement le secret diplomatique avec l'inviolabilité des communications diplomatiques. La protection du secret est non seulement légale, mais elle est ancienne, universellement reconnue et perdure notamment grâce à la fameuse valise diplomatique qui est d'ailleurs pas une valise. Aujourd'hui, les technologies modernes permettent le codage instantané de la correspondance diplomatique entre les ambassadeurs et leur capitale. Mais la recherche d'informations, l'inviolabilité des correspondances et la protection dont bénéficient les diplomates peuvent aussi conduire à ces excès, à des excès. On a vu, vrai, des ambassadeurs qui tapaient un peu les pédales et organisaient eux-mêmes des réseaux d'espionnage. Ça finit par savoir et c'est la source d'incidents diplomatiques pas faciles à gérer. Le secret est-il souhaitable ? Alors cette question est venue des États-Unis en 1918, quand le président Wilson a demandé l'abolition de la diplomatie secrète dans un discours qui était empreint d'idéaux élevés, pour ne pas dire de naïveté. La diplomatie secrète était accusée de permettre à un nombre restreint de personnes de mener dans l'ombre des tractations destinées à poursuivre cyniquement des intérêts égoïstes au nom de la raison d'État pouvant mener à une situation de guerre, cela au détriment des peuples et de leurs droits et libertés. C'est ce qui a poussé beaucoup plus tard, plus récemment d'ailleurs, les responsables de Wikileaks à publier sur Internet en 2010 des milliers de télégrammes et de documents diplomatiques. Du coup, l'un des effets peu connus de cette affaire est sans doute la prudence extrême aujourd'hui des diplomates qui s'agit pu constater dans la rédaction de leur correspondance et une tendance à l'édulcoration des contenus qui s'en est suivie de peur des fuites. C'est là l'un des risques d'une trop grande transparence, elle incite à ne plus écrire et à multiplier les canaux informels. C'est-à-dire soit on passe par des canaux parallèles, ou soit ce qu'on écrit n'a plus aucune couleur, plus aucune saveur, et bardé de peut-être, il se pourrait, et d'emploi du conditionnel à outrance, ce qui fait que ça n'oriente plus les autorités décisionnaires. Le secret est-il nécessaire en diplomatie ? Dans leur rôle d'informateur de leur gouvernement, les diplomates se voient aujourd'hui concurrencés par les médias, qui véhiculent désormais une information immédiate et mondialisée, comme pour la justice. Mais le diplomate conserve un rôle de synthèse et d'analyse de l'information en fonction de son expertise de terrain. Il y a une vision parisienne et une vision locale, c'est pas la même. C'est donc une information différente de celle des médias qui envoie à sa capitale. Il faut le temps de maturer, de rencontrer des gens, de discuter. Et donc, le temps diplomatique comme le temps de la justice n'est pas le temps médiatique. En observant les évolutions du monde contemporain, on peut se demander si le secret n'est pas parfois néfaste. La transparence complète dans les négociations ne pourrait-elle pas constituer une antidote au complotisme, au conspirationnisme. On voit bien que les délibérations qui ont lieu régulièrement, sommet du G7, sommet du G20, donnent souvent lieu à des grosses manifs de gens qui protestent parce qu'ils disent on n'est pas dedans, on ne voit pas ce qui se passe. Et que même parfois, les manifestants iraient jusqu'à investir les lieux s'ils n'étaient pas empêchés de faire des cordons de sécurité. Mais ce genre de comportement montre les pressions que peuvent subir les négociateurs. Il faut être réaliste, c'est à l'écart du grand public que s'échangent patiemment les concessions. C'est à l'écart que l'on peut espérer qu'un adversaire reconnaisse vos arguments, parce que si c'était au vu et au-dessus de tout le monde, ben, il n'oserait pas, il se grillerait, quoi. Il serait compromis.
Il perd la face.
Voilà. Alors, le secret du diplomate, monsieur. Là, on touche à la dimension humaine du diplomate, à ses qualités psychologiques. Pour un diplomate, il est tout aussi utile de connaître les intentions énoncées par un négociateur, c'est-à-dire la personne qui est en face de lui, un autre diplomate, en clair, que de l'observer pour comprendre ses idées, ses valeurs, ses intentions, son comportement, jusque dans les infimes mouvements de son visage pour percer le secret. Encore n'est-il pas toujours facile de comprendre un habile négociateur par l'observation de ses attitudes et de ses réactions, surtout quand il s'appelle Vladimir Poutine, qui est complètement impossible. Et là, donc, je laisserai le dernier mot à Talleyrand qui décrivait ainsi le diplomate. Il lui faut la capacité de se montrer ouvert en restant impénétrable. Il faut que sa conversation soit simple, variée, inattendue, toujours naturelle, et parfois naïf. Ça, il s'agit de faire. Et d'ailleurs, d'expérience, le diplomate est parfois tellement secret pour son inter-ego négociateur, qui est même secret pour ses collaborateurs. Un ambassadeur ne dira jamais le fond de sa pensée, y compris à ses proches collaborateurs, expérience vécue. Alors je terminerai, vous voyez que je n'ai pas fait de tropisme professionnel, je n'ai toujours pas parlé du secret militaire, et j'en parlerai pas, je l'aborderai que par un point particulier, qui sera en même temps, j'imagine pour certains d'entre vous, une source d'information également, parce que c'est un domaine qui est peu commenté. Et donc là, je reprendrai les propos de du commandant Cyril de Jorias, qui a commandé le Vigilant, et le Triomphant, qui sont deux sous-marins nucléaires. Passer 70 jours sous l'eau, en complète autonomie, disparaître totalement de la surface du globe et ne plus communiquer avec la Terre, se tenir prêt à lancer les missiles si le président de la République en donne l'ordre, c'est ce que vivent les 110 marins d'équipage d'un sous-marin nucléaire. Comment préparer et conduire une telle mission? C'est la responsabilité du commandant, le pacha, comme on dit. Et c'est aussi son secret. Alors, quand un sous-marin nucléaire quitte la rade de Brest et plonge dans les profondeurs de l'océan, personne ne sait où il va, personne ne sait où il sera demain, dans 10 jours, dans un mois. Personne même n'a dit au commandant du sous-marin avant le départ où aller. Et personne ne saura après le retour par où il est passé, à l'exception de son amiral chef direct, à qui il rendra compte dans un entretien et un débriefing complètement personnel, à deux, et totalement confidentiel. Dans un monde de l'instantanéité des échanges, les sous-marins nucléaires restent la dernière unité militaire à être complètement coupée du monde et à se déplacer sur des milliers de kilomètres pendant de longs mois, sans rendre compte à quiconque de sa position ou de ses intentions en toute impunité. Le rêve. Vous avez compris que dans une patrouille de sous-marins nucléaires, tout est secret. Sa position, mais aussi sa signature acoustique, la forme de son hélice, son immersion maximale, la procédure de décodage de l'ordre de lancement, c'est pas évident, la conception des têtes nucléaires et bien sûr les objectifs qu'elles visent. Tout ce secret a tout simplement pour objectif de préserver la crédibilité de notre dissuasion. Mais dans le même temps, la dissuasion introduit une dialectique des volontés dans laquelle il convient d'allier la part de secret qui préserve nos intentions et induit un doute de nature à dissuader avec une part de démonstration qui assure clairement que nous ne faillirons pas au moment important. C'est un petit peu ce que je disais dans les paradoxes. si vous dites pas que vous avez l'arme nucléaire, si vous dites pas que vous avez des sous-marins, si vous dites pas qu'ils sont en patrouille et qu'ils sont capables d'eux, ben vous dissuadez plus. Le défi permanent du sous-marin nucléaire est d'éviter d'être détecté, y compris par des alliés, et même par nos propres forces. C'est-à-dire un bâtiment français qui patrouille pas loin de sous-marin nucléaire, le sous-marin nucléaire, il ne veut pas être détecté, y compris par nous-mêmes. Mmh. Et donc, sous l'eau, dès que la patrouille commence, il a plus d'amis, il n'a pas d'ennemis, mais il n'a que des inopportuns. Des importuns. Ainsi, la patrouille peut apparaître comme une fuite permanente et comme un gigantesque jeu de cache-cache. Ils vont cacher, ils vont tomber. Pour faire disparaître ce monde d'acier de 14 000 tonnes abritant une centrale nucléaire tournant 24 heures sur 24 et 110 hommes d'équipage, il faut réduire à sa plus simple expression la signature acoustique. Le sous-marin est un bijou de technologie qui fait moins de bruit qu'un écoulement d'eau. Enfin, le sous-marin ne communique jamais vers la Terre. Il reçoit des informations utiles à sa patrouille en restant en plongée, mais il n'émet pas. C'est-à-dire que il peut recevoir des messages, mais il n'en envoie jamais. C'est le monde du silence, voire même chez les sous-mariniers que j'ai bien fréquenté. C'est même une psychose, quoi. C'est l'obsession du silence permanent. En conclusion, à bien y regarder, le secret couvre l'ensemble des activités humaines. Comme on l'a lancé en introduction, l'objectif n'était pas d'aborder le sujet de façon exhaustive. Nous n'avons pas abordé le secret bancaire, nous n'avons pas abordé le secret industriel, le secret de fabrication, le secret générateur de la théorie du complot, rien que ça déjà on pourrait faire une intervention, le secret dans la littérature, rappelez-vous, le masque de fer, le nom de la rose, John le Carré, le secret dans le cinéma, OSS 117, le bureau des légendes, les trois jours du Condor, James Bond, bien sûr. Et encore moins, le secret de Polichinelle. C'est où, Mazarine Pinjot. Voilà. Alors, vous voulez mon avis en toute transparence?
Oui.
C'est un secret.
Il l'avait préparé depuis longtemps. Bravo. Que dire après ça? C'est un secret.
Non, mais en fait.
C'est passionnant, c'est un sujet passionnant.
En fait, c'est souvent un sujet sur lequel on émet instinctivement un jugement négatif, puis en fait, dans nos vies, on est dedans, quoi.
Ben oui, et sur plusieurs générations, parfois.
Oui.
Mais oui, c'est ça, c'est. En fait, quand, sur le premier exemple qui a été donné, ça fait réfléchir en amont que, en fin de compte, qui s'est passé un secret qui a été tenu 40 ou 50 ans avant, quand, maintenant, par exemple, il est complètement dénué de son importance. Alors que ça a pu pourrir la vie d'une famille.
Oui, ça, c'est des secrets de famille.
Et d'ailleurs, alors, oui. Ce qu'il y a de. Ce qu'il y a
de pire, parfois, ce sont aussi des secrets de famille.
Oui, mais ce qu'il y a de pire, c'est que ça n'a pas été évoqué dans le livre, mais ce qu'il y a de pire, c'est que ça agit sur la santé d'une famille. Parce que moi, je suis allée à Lyon, je suis allée souvent.
Elle ne pouvait pas revenir sur
qui est ce modérateur aujourd'hui.
Oui.
C'est secret.
Oui, allez, vas-y. On va pas t'interrompre.
Ah, mais je n'ai pas toujours les bonnes
choses.
Oui, moi je suis allée pendant des années à des conférences de psychanalyse de la Société psychanalyse de Paris, il y en a une à Lyon. Et il y a quelqu'un, enfin un psychiatre, psychanalyste coté, et qui est venu raconter ce qui s'était passé dans la famille d'un de ses patients. Ouais. Et il y avait un bébé qui est né, et ce bébé, il était, depuis qu'il était né, il était rempli d'eczéma, et jusqu'à l'âge d'un an, il était impossible, je l'ai peut-être déjà dit ici.
Non, mais j'ai eu la même histoire sur autre chose.
Là, on l'avait un peu à l'indirect, parce que c'était le psychanalyste du bébé, enfin, pas du bébé, mais de la famille. Et ce bébé, il était rempli d'eczéma. Les parents ne savaient plus quoi faire, ils ne dormaient pas de la nuit. Et le bébé, ben, il grossissait pas. Et ça a duré comme ça jusqu'à un an ou deux ans, enfin assez longtemps quand même. Les parents désespéraient. Puis un jour, on leur conseille d'aller avoir à la SPP un bon psychanalyste, pour eux déjà, pour supporter. Alors là, on leur dit, ça dure un certain temps, il y a des séances, on écoute la mère, on écoute le père, et puis un jour, on dit à la mère, qui était quand même la plus accablée, elle raconte sa vie, ses angoisses, depuis qu'elle était toute petite, enfin, etc. Puis on lui dit, on voudrait voir votre père. Alors le grand-père accepte de venir, et puis la grand-mère, puis chacun leur tour, ils acceptent de venir, ils parlent. C'était, il a fallu du temps hein, avant d'arriver là. Et en fin de compte, le problème venait de la déportation du grand-père. Le grand-père avait été déporté, il ne pouvait pas en parler. Il tenait ça, cette souffrance, cette douleur innommable, on s'en doute, on ne peut même pas imaginer, nous qui ne l'avons pas été, ce que ça a pu être. On peut seulement imaginer. Et cet homme a fini... pour la première fois de sa vie, donc peut-être, je ne sais pas, 50 ou 60 ans après, à dire sa souffrance et dire cette horreur qu'il avait vécue, et que quand il est rentré, il ne pouvait pas le dire pour deux raisons. Lui était complètement bloqué, et le reste de la famille n'aurait pas cru ce qu'il allait raconter, tellement c'était horrible. Il n'aurait pas été cru. Et ça, cette idée qu'il aurait pu ne pas être cru, lui était insupportable. Alors, en fin de compte, à partir de là, il y a eu une réunion à plusieurs personnes de la famille. Le grand-père, ayant parlé au psychanalyste, a parlé à sa famille. Sa fille a compris pourquoi elle ressentait une angoisse insupportable dans la famille et envers son père, mais elle ne savait pas ce qu'il y avait. Et elle vivait ça, et elle-même avait été, en fin de compte, atteinte par ça. Et à partir du moment où il y a eu tous ces conciliabules et que tout le monde s'est parlé et a été dévoilé, le bébé, du jour au lendemain, plus d'eczéma. Il y avait 2 ans, plus d'eczéma, fini.
La question est de savoir si le grand-père, qui a gardé secret en s'imaginant que c'était fondé ou pas, est-ce qu'il n'a pas gardé...
Il ne pouvait pas le faire, quoi. Au départ, il ne pouvait pas parler. Mais il avait... plus le temps passait, plus il se disait que s'il en parlait, il ne serait pas cru. Et donc, ça le bloquait.
Oui, mais c'est la réalité.
Il y a pas mal d'histoires.
Non, on le sait.
Non, mais tout ce qui est lié à des retours de guerre, c'est un classique, ça. Oui. Les gens qui ont subi les horreurs de la guerre ne veulent pas jamais parler de ce qu'ils ont vu et vécu.
C'est moi la modératrice, en fait. Et comme on avait déplacé, tu vois.
Bon. Et puis moi, je n'ai pas fait la bonne... Ouais. Vas-y, Michel.
À propos de ce que vous avez dit sur le sujet de la confession, actuellement, dans l'état du Maine, la Chambre des représentants est en train d'essayer de dire que ce secret ne sera plus absolu. Les évêques américains ont répondu qu'ils iront en prison, mais que
le secret, ils iront en prison. C'est improuvable d'avoir un secret de confession.
Je sais bien, parce que finalement, on sait bien que si le secret est élevé, personne n'irait se confesser.
Moi aussi. Si c'est un secret de confession.
Bah oui, pourquoi se confesser?
Si c'est un secret de confession, qui le saura? Juridiquement, c'est improuvable.
Jean-Paul.
Nous sommes appris que dans le secret, il fallait toujours, avec la personne à qui on s'adresse, le besoin d'en connaître.
Oui.
C'était le mot en bandeau essentiel. C'est la personne à qui on s'adresse, ou qu'on veut évoquer, est-ce qu'elle a le besoin d'en connaître.
Et alors ça, c'est une notion qu'on peut définir quand il s'agit de secret professionnel, mais quand c'est pas professionnel...
Ouais.
Secret de famille, c'est quoi le besoin d'en connaître?
Oui. sauf si ça crée des problèmes.
Jean-Paul,
sur le secret professionnel, pour les professions juridiques, bon, moi je le connais surtout par le notariat, mais c'est plus général, la Cour de cassation dit que ce secret professionnel a un caractère absolu. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'un magistrat qui a une enquête en cours
ne peut pas demander à un hôtel de communiquer des pièces, de communiquer des courriers qu'on veut échanger avec ses clients, etc. Bon, il peut se faire communiquer les actes eux-mêmes, parce que ça peut avoir un intérêt d'examiner non pas une copie d'acte, mais l'original de l'acte pour savoir si les signatures ne sont pas contrefaites. Donc de voir l'appel humain, c'est une procédure très ancienne qui s'appelle le compulsoire. Et autrement, donc, il y a un notaire qui reçoit un policier qui vient l'interroger sur une affaire, doit opposer un secret professionnel absolu sur ce qui s'est dit dans son étude, dans son client. Bon. Et aussi sur les courriers qui ont été échangés avec ses clients.
Il n'y a que l'acte officiel.
Et par contre, alors, la seule limite, c'est que le juge d'instruction, dans le cadre d'une affaire pénale, une affaire judiciaire, peut, sur commission rogatoire, envoyer un officier de police judiciaire qui, lui, mettra les scellés sur des pièces. Et les emportera pour l'analyse. Voilà. C'est la seule. Et entre avocats, puisqu'on a parlé des avocats tout à l'heure, il y a aussi le principe du secret des communications entre avocats.
Mais ça a été violé.
On dit que ça se fait sous la foi du palais. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, bon, je ne parle même pas en matière pénale, mais en matière civile, vous avez un procès avec quelqu'un. Et puis vous dites, oh, bah, ma position n'est pas très, très, très solide, je vais lui faire une proposition transactionnelle. Si vous la faites directement, il n'y a aucun caractère secret, et après, parfois le destinataire peut la produire en disant, oh, bah, vous voyez bien qu'il n'est pas sûr, puisqu'il me fait une proposition. Par contre, si vous la faites passer de l'avocat à un autre avocat, sous la foi du palais, ça garde un secret absolu, donc l'autre avocat ne peut pas s'en prévaloir. Et ne peut pas. Et ça se matérialisait, maintenant c'est peut-être plus exactement de la même manière, à l'époque, de manière un petit peu curieuse, c'est que chaque avocat avait son casier au tribunal pour les correspondances, et que ce qui était mis par un avocat dans le casier d'un autre avocat était couvert, c'était sous la foi du palais.
Alors, avec la numérisation maintenant de tout, vrai, comment on va faire pour préserver les secrets?
Actuellement, mon cas, avec un notaire, nous échangeons par mail. Et ma belle-sœur échange par vidéoconférence.
Oui, que les mails sont protégés.
La confidence. Ma fille qui est notaire, il y a quelques jours, m'a posé une question, parce qu'il y avait une affaire de vente où il y avait un droit de préférence d'un locataire, etc. Et puis, bon, ça devenait confus, ça tournait mal, il y avait eu des courriers d'échanger par mail, bien entendu. Et elle m'a dit, papa, mon client me demande que je transmette à l'avocat du client les mails que tu avais échangés avec ton confrère, parce qu'elle était avocat acquéreur. Et elle a répondu, ça n'est pas possible, c'est le secret professionnel. Même si le client m'autorisait à le faire, je ne pourrais pas le faire. C'est le caractère absolu du secret professionnel.
Oui, mais il y a déjà le principe du mail. Le mail est envoyé où? Protégé par quoi? Rien. On ne sait pas où il se promène.
Michel, vas-y.
Moi, c'est à propos de la démocratie. Je trouve que quand même ce système, il est un petit peu normal qu'il cherche à lever les secrets, ne serait-ce que pour se protéger, pour protéger son système. Parce qu'au cours de l'histoire, les démocraties, on le sait, ont été attaquées par des oligarchies ou des tyrannies, et qu'il y avait même à Athènes, quand même, dit-on, la mère de nos démocraties, des gens qui étaient chargés en quelque sorte de dénoncer ce qui était des violations des lois. Ça portait d'ailleurs un nom.
Oui, il y avait des boîtes où on mettait des dénonciations.
Oui, aussi. Alors, mais là, disons que c'était admis par le système démocratique lui-même et même encouragé. Ils étaient rémunérés.
Alors ça, c'est une notion intéressante parce que C'est un peu comme le secret, ça dépend aussi des temps et du contexte. Parce que
du contexte.
Ce qui peut apparaître comme un acte citoyen,
oui.
Est aujourd'hui, je vais prendre une balance. Et que donc un acte civique peut être aujourd'hui considéré comme
une violation.
Les guerres, c'est pas là, on mélange tout. Oui.
Toutes les guerres et l'occupation sont passées par là, ouais. Et donc l'idée de dénonciation est devenue très péjorative.
Oui, voilà. Sauf que ça n'a rien à voir.
Alors qu'à Athènes, c'était admis, et donc l'État rémunérait les dénonciateurs. Et même de certaines lois,
Mais il paraît que c'est même le cas en fiscalité. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais on dit que quelqu'un... Qui informe le fisc de quelqu'un d'autre qui est parfait clair, qui serait rémunéré. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas.
Oui, mais le voisin est ici, par exemple. Maintenant, il paraît qu'il y a des petits drones entre voisins, il y en a qui dénoncent le voisin. La police dit elle-même, les impôts disent eux-mêmes que les piscines sont, la majeure partie sont déclarées par les voisins.
Oui, mais la question est, est-ce que c'est vrai que les gens qui informent ont une contrepartie?
Ça, c'est pas jamais. Ah, mais ça, c'est autre.
Ça, je ne sais pas.
Mais
vos voisins peuvent connaître les impôts que vous payez.
Comment?
Vos voisins peuvent connaître les impôts que vous payez. Et puisque vous déclarez pour, par exemple, vos habitations, le nombre de pièces, etc., ils peuvent consulter.
Mais sur quoi?
Aux endroits où
ça. Vous servez des impôts, mais à condition d'être de la même commune.
Oui, c'est ça. De votre commune, vos voisins, si vous voulez.
Ah, et quel impôt?
L'impôt foncier.
L'impôt foncier, puis l'impôt.
L'impôt foncier.
L'impôt foncier. Là, j'apprends quelque chose.
Mais je crois aussi, impôts fiscaux aussi. Impôts fiscaux aussi.
Ah,
si, si, ça je vous assure. Hein. Vous pouvez voir.
Non, c'est les impôts locaux. C'est les impôts locaux. C'est pas les impôts sur le revenu.
Pas sûr. Hein. Il y en a plus. Il faudrait que quelqu'un se renseigne.
Tu prends ces gras pour savoir s'il y a uniquement les fonciers ou s'il y a aussi les fiscaux.
Oui, tu poseras la question.
Dans la limite.
Une question à l'expert là. On va tenir longtemps le secret des sous-marins comme ça? Parce que j'ai discuté il n'y a pas longtemps avec un ingénieur qui disait qu'il avait fait la jonction entre l'hélice et la. Pour avoir le silence.
Ça, c'est différent que des gens fassent du renseignement pour essayer de percer les secrets technologiques des hélices. C'est sûr, ça existe, mais en revanche, ce qui est certain, c'est que le sous-marin nucléaire plongé, ça reste encore un absolu aujourd'hui. Les moyens acoustiques sont de plus en plus performants,
c'est ça, ouais.
On n'a quand même pas trouvé mieux.
Et puis il y avait des soldats japonais dans les îles du Pacifique qui ne savaient toujours pas que la guerre était finie.
Il ne suffit pas uniquement d'être sous l'eau, ils jouent avec les courants et avec la salinité. Et en fonction de la salinité de l'eau, il y a des couches de salinité différentes. Les échos ne sont pas les mêmes. Pas technicien de cette affaire, mais c'est ce qu'on a expliqué. Donc, il joue pas à cache-cache avec la forêt, avec le mouvement de terrain, il joue avec les couches d'eau.
Non, mais eux savent où ils sont, puisqu'il y a le gyrocompas qui permet en intégrant de reconstituer la trajectoire. Mais eux, ils le savent à l'intérieur. Oui.
Façon de faire avancer leur sous-marin qui était pratiquement silencieux et qui s'opposait aux hélices. Je ne me rappelle plus quel est ce film américain où on voit que les Russes ont inventé en avance des Américains une façon de propulser leur sous-marin nucléaire sans servir justement d'hélice mais par une espèce de chaîne. Rappelle plus.
Le fantasme d'une chenille.
Oui, voilà, la chenille. Ils appellent
ça
la chenille.
C'est un fantasme. Une chenille, c'est plus des boucans.
Enfin, c'était bien le problème d'essayer de savoir si on ne pouvait pas les repérer, quoi.
C'est un plantier.
Bien sûr.
Oui, dans le secret médical, il y a un truc qui m'étonne un peu toujours, c'est quand on va à l'hôpital,
on a pris rendez-vous avec un médecin de l'hôpital, et il se ramène, et il a sur son bureau un dossier médical qui, en général, enfin, celui de ma femme, il est fait son poids. Et moi, je me suis posé la question, le nombre de gens qui, par lesquels le dossier passe, la secrétaire, la téléphoniste, le type qui, sur un brancard, pousse les le chariot, il y a tous les trucs.
Normalement,
il y a un monde infini. Le nom est écrit en gros. Donc le dossier de Rameau Benjac, il se trimballe sur un chariot. Le type, il rentre dans les toilettes, qui pousse son chariot, il rentre dans les toilettes, il fait tous les...
Il risque de perdre son emploi. C'est ça qui est pris.
Ça existe de sa source. Bien sûr, s'il la donne à n'importe qui, mais s'il la donne à des gens bien passés.
Il avait visité un patient. Mais il est dans une chambre pas particulière. Il y a un lit d'à côté, il y a son nom, il y a ses températures.
Oui, bah oui. Forcément.
Et puis, Internet, c'est la même chose, parce que les dossiers.
Parce que maintenant, c'est plus sur la carte verte. Quand le médecin, vous allez chez votre médecin et. Tu mets ta carte,
il y a des dossiers,
il y a bien des infos dessus. Oui.
Je reviens au sous-marin parce que je repensais à, puisque Marc Dugas avait écrit un livre là-dessus, à ce sous-marin qui est resté et on a laissé mourir les marins.
Le Kursk.
Alors, est-ce que c'était pour pourquoi Poutine a accepté ça, qu'il crève plutôt que on
cherche.
Est-ce que c'est pour une question de secret justement?
Oui, bien sûr. Hein? Ah oui, pour garder le secret de leur technologie.
Voilà, tu vois, c'est ce que
parce
je
que le,
ouais,
ah,
ouais.
Il avait la capacité à les Anglais et les US savaient faire ça, c'est-à-dire avoir un sous-marin de secours.
Ouais,
qui venait se flipper sur un sas, c'était compatible. Et les Russes n'ont jamais voulu.
Ouais. Oui, ils ont parlé. Les Finlandais ont laissé crever les marins dans son marin. Et Marc Dugas avait fait un livre très bien là, sur ce.
C'est l'histoire aussi du bateau de pêche.
Oui.
Qui a coulé. On n'a jamais su.
Oui, ben c'est sûr, c'est un filet, c'est un sous-marin qui s'est pris dans le filet, bien sûr. Et il est complètement collapsé.
Non, mais c'est un sous-marin,
mais enfin, pour le platir comme une boîte de sardines, c'est qu'il est quand même, il était tiré vers le fond.
Si c'est ça, on peut l'imaginer, ça veut dire que ce n'est pas un sous-marin classique, à partir de ce moment-là, mais c'est sûr que ce n'était pas un sous-marin français, parce que ça, là aussi, cacher la réparation d'un sous-marin dans les ateliers en France de CN avec la pression qu'il y avait, les syndicats, tout ça, c'est impossible. Donc, si c'est un sous-marin, c'est sûr que ce n'était pas un français.
La récompense donnée aux dénonciateurs fiscaux existe toujours. Elle a été instaurée en 1916. Elle a été renouvelée par un décret du 21 avril 2017.
Merci. Moi, ouais, j'en étais sûr. Hein.
Alors, on rémunère qui? On rémunère alors les.
Oui.
C'est une faculté.
Dans quel domaine?
Fiscaux, dans tous les domaines. On peut autoriser l'administration fiscale à indemniser toute personne étrangère.
Oui.
Un pourcentage de
son. Voilà. Ça, j'en étais sûr. J'en avais parlé.
On l'avait entendu parler, mais je ne savais pas si c'était un fantasme ou la réalité.
Non, c'est une réalité.
Par rapport à ceux qui font un business à faire.
Il y a eu aussi des dévoilements, les gars ont été rassurés, ceux qui ont montré des listes en Suisse d'abord et puis dans les paradis.
Les paradis fiscaux, là, je veux savoir, parce que là, c'était quand même beaucoup de journaux qui travaillaient ensemble.
Et la Suisse a admis de ne plus garder secret.
Oui.
Ouais. Enfin, il y en a peut-être
un peu moins.
Si c'est parfait, mais enfin, disons qu'avant.
C'est l'annonce.
Oui.
Je pense que certains le gardent.
Avant.
Et pour, sur le ton de la blague, je trouvais que j'étais dans le cœur du cœur des opérations au moment de la guerre du Golfe. Et, bon, c'est la guerre. Et pour, même si c'était à Paris, ceux qui étaient dans le trou, c'était vraiment en guerre. Moi, je suivais toutes les pièces anti-aériennes de Saddam Hussein. Je savais toutes les, tous les sites de missiles anti-aériens de Saddam Hussein. Vous pouvez les piloter tous sur une carte. Bon, les années, le temps passe, la guerre se finit, et revient cet organisme où j'étais, le Centre opérationnel des armées, un camarade, qui lui avait été dans le Golfe comme pilote d'hélicoptère. Et donc j'interroge, c'est quoi ton expérience de la guerre du Golfe en tant que pilote d'hélicoptère ? Elle dit, on n'avait pas d'état d'arme. Dès qu'on avait un doute, on tire. Si c'est un arbre, c'est un arbre, mais si c'est un ennemi, au moins, risque zéro. Quoi. De toute façon, en face. C'était soit un rocher, soit un ennemi, mais bon, il n'y avait pas. Il disait notre obsession, c'était les armes anti-aériennes de commande Saddam Hussein, mais on ne savait pas où elles étaient.
Et moi, je le savais.
C'est marrant parce que moi je savais, mais c'est un secret. Bon, je lui dis sur le ton de la blague, le vrai problème c'est la transmission.
Comment ça se fait que,
parce qu'il y avait un problème de coordination, de transmission de l'information,
oui,
comme ça.
Ah,
oui,
mais
c'est quand même grave là.
Oui, oui.
Bah, oui. Mais enfin,
non, ce qui est possible, c'est qu'en fait, à cette époque, ces informations précieuses qu'on avait, on ne les avait pas par nous-mêmes. C'est les Américains qui nous les
ont.
Et donc, est-ce qu'il y avait le droit de rediffuser? Enfin bon, je ne sais pas. Moi, j'étais un petit à cette époque, dans un front rouge, je me suis pas posé la question de savoir comment. Mais c'était un petit peu pour, simplement pour imaginer le fait que parfois, ce qui n'est pas
mon cas,
mais le détenteur du renseignement, j'en ai parlé tout à l'heure, se sent valorisé. Et il y a eu des tentatives, des dérives comme ça, notamment dans le monde du renseignement. Moi, j'ai le droit d'en connaître, et pas toi. Et donc le gars, s'il dit, par quelqu'un même qui est un militaire à connaître, il perd toute sa valeur. Donc c'est là où il faut se méfier, parce que le secret peut être néfaste. Quelqu'un a un secret, mais il ne veut pas le donner, même à quelqu'un qui a en connaître, simplement parce que sinon, il ne vaut plus rien.
Un truc qu'on n'a pas évoqué, c'est le truc à l'envers. C'est-à-dire, quand le secret est divulgué, c'est un secret bien gardé, celui qui le reçoit n'y croit pas. Parce que le coup classique, Hitler a dit Staline va attaquer. Non, c'est pas possible. Bush, on lui a dit, il va y avoir des attentats. Non, c'est pas possible. Donc, toutes les grosses affaires comme ça ont montré que le renseignement avait apporté la bonne information aux décideurs. Et le décideur était enfermé dans sa logique et en disant ben non, j'y crois pas, c'est faux.
C'est plus le secret qui est en cause, c'est le décideur.
C'est le décideur. Mais, j'ai cru comprendre que M. Macron avait limogé le chef du renseignement militaire qui lui avait dit non, Poutine n'attaquera jamais. Qui lui aurait dit. Hein,
ça, c'est pas lui qui l'a limogé.
Oui, non, mais d'accord.
C'est enfin. Le chef d'état-major
de l'armée. Oui, bien sûr.
Il n'y a pas de chef, je pense, contre le chef d'état-major de l'armée. Et ce patron de l'époque, c'est le courant, passait pas.
Oui, non, mais donc, il y a quand même eu, dans l'histoire de l'Ukraine, on a les journaux ont rapporté le fait qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont dit non, vu, si on fait une balance coût-bénéfice,
on le voit en ce moment avec la fameuse, on n'arrête pas de nous en parler,
de la Cour de.
Et alors tous les journalistes, y compris les camarades qui sont plus ou moins pertinents dans leurs interventions aux chaînes de télévision, et chacun y va de son commentaire, et je pense que, et il va se passer, c'est ça.
Comme pour le Covid.
Le secret, il est dans la tête de Zelensky, quoi.
Oui.
C'est ça, le meilleur secret, c'est comme le Pacha. Le secret, il est dans sa tête. Et là, il y a l'informatique, il ne peut rien.
J'ai regardé ce matin, il y a le chef de Wagner, le
Prigogine,
qui a négocié un accord secret avec Kiev.
Oui.
Qu'est-ce que ça vaut comme un
point?
C'est trop gros. Vu sur Internet.
On est tellement contents, nous, les téléspectateurs,
maintenant.
Mais nous, les téléspectateurs,
c'est le genre de choses que l'intelligence artificielle peut fabriquer. Comme l'autre jour, il y avait la photo.
Oh, mais les intelligences naturelles, ça ferait bien le faire aussi.
Il y avait la photo de.
Et même des cons.
Du
il a été entre deux gendarmes ou un truc comme ça, c'était une photo fantastique.
Oui, 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 une image. Oui, oui.
Alors, c'est vrai que c'est pour ça que celui qui a fabriqué ça dit qu'il faut tout arrêter. C'est
pas non, c'est le contraire du secret, c'est de la désinformation contraire.
Oui, ben voilà.
On va immerger avec du fake, oui. Non, pourvu que ça passe.
Oui, mais enfin, comme il n'y aura que du fake partout, on dira ben, je crois plus rien à rien.
C'est ça que je voulais vous dire. Oui, parce que c'est vrai que les Anglais avaient essayé aussi de faire de la désinformation auprès des Allemands.
Oui, oui,
bah,
oui.
Bah voilà.
Oui, oui, oui.
Exemple.
Oui,
la traversée.
Et le problème des opérations militaires aujourd'hui, c'est justement de maintenir un secret, parce qu'une offensive, c'est pas un truc qui se dessine comme ça et qui se monte. Il y a des mouvements préalables. Bon, aujourd'hui, avec les satellites, tout se voit. Donc la surprise est très difficile à obtenir.
Dans tout ce qu'on dit, là, le principe du secret continue quand même. Enfin, moi, j'ai la main qui est dans les renseignements à l'étranger. Eh ben, on ne sait jamais où il part, on ne sait jamais quand est-ce qu'il va revenir. Il est militaire, donc voilà. Il se sort de temps en temps. L'autre jour, on a appris qu'il apprenait le russe. Alors, on se dit qu'il doit...
C'est une passion pour les langues étrangères.
Tiens, j'en connais un autre.
Donc, non, mais voilà, on ne sait jamais, voilà, donc ça reste vraiment secret. Bon, donc, et d'après ce qu'il nous dit, enfin, sa femme nous dit, je ne sais pas où il va.
C'est dans son contrat, il n'a pas le droit de dire ce qu'il fait à sa famille.
Même qu'on pourrait dire, oui, bah, maintenant, ça y est, on peut suivre tout le monde, tout ça, il y a encore, il y a des institutions qui l'utilisent. Fortement.
Sa famille, c'était pas le débat, c'est tout à fait normal.
Oui, oui.
Ben, ça coûte court à tout ça.
C'est si sa femme, le secret personnel,
je sais où il va.
Pour avoir bonne conscience, on l'appelle.
C'est plus joli. Comme on dit toujours, si vous voulez savoir les choses concernant. C'est pas même peut-être qu'on a des techniques avec un c'est le secret de Coca-Cola, la composition de Coca-Cola.
Ouais.
Il semblerait qu'il n'y a jamais eu de secret.
Bah, c'est souvent la question que je me suis posée, parce que je dis depuis le temps.
C'est des pipeaux.
Avec les labos de chimie,
tout
ce qui rentre,
Il y a des gens qui disent qu'il n'y a jamais eu de secret.
Non, mais l'extrait est fait dans les usines de départ. C'est pas le secret, c'est de dire après, vous diluez le concentré que je vous envoie, et donc, c'est tout. C'est à travers ça qu'il y a la vente de licence. On met de la limonade dans l'extrait qui vient des États-Unis.
C'est un
massacre
d'argument marketing.
Oui, oui, oui.
Parce que c'est un massacre d'argument. Parce qu'on n'a jamais parlé du secret.
Ben, c'est des dissidents de Coca-Cola, Pepsi-Cola.
Non, mais c'est un sujet cynique. C'est un sujet cynique. Donc, Anne-Marie regrettait de ne pas pouvoir être là parce qu'elle voulait parler du secret.
Oui, bien sûr. Et là, ce secret, elle nous l'aurait.
Regrettait
de ne pas pouvoir être là parce qu'elle voulait parler du secret.
Oui, bien sûr. Et là, ce secret, elle nous l'aurait.
On ne s'est pas compris.
Bon.